Bonjour à tous. Donc, sans transition, je vais vous parler aujourd'hui donc de cette question des interactions langagières dans la classe, qui est mon domaine de recherche en acquisition, en didactique du français langue maternelle et qui débouche aussi sur la didactique du français langue étrangère. Donc effectivement, je travaille sur Lille, sur l'université de Lille, et j'ai mentionné aussi l'association de formation et de recherche sur le langage dont je suis vice-présidente et qui, à travers laquelle il y a toute une série de dispositifs d'accompagnement, de formation qui sont proposés et organisés pour tout type de professionnels qui s'intéressent aux questions du langage. Voilà, alors, pour démarrer, je vous propose en fait de regarder une vidéo. J'ai mis la transcription parce que comme très souvent dans une classe, c'est très bruyant, donc les vidéos sont toujours très difficiles, difficilement audibles. Donc j'ai mis la transcription en dessous de façon à vous aider à entendre ce que dit l'adulte avec Théo.
Est-ce qu'il y a deux oreilles proches? Je pense que c'est cela. Essaye.
Chauffe.
Triste ici, essaye. Il faut bien les mettre droit. À plat. À deux. À plat, regarde. Essaye de le prendre. Oui, tu vois que c'était la bonne place. Oui, mais tu vas la bouquin. Comme ça. La ferme. Grande ferme.
Tous les L, tous les O.
Ah, presque, mais c'est pas là. Oui, regarde la forme de là. Tu vois, c'est découpé, c'est arrondi, comme
allez,
tu.
Le pied pour deux V.
Le pied pour deux V. On le dit dedans. Vas-y.
Voilà, alors, cette petite vidéo, je vais remettre en grand. Voilà. Donc, la transcription, je pense qu'elle est utile parce qu'on entend vraiment un peu. Mais si on regarde ce que propose l'adulte, en fait, elle va adopter toute une série de modalités qui sont relativement positives du point de vue de l'interaction, dans le sens où elle va aider l'enfant à résoudre le problème par le biais de la verbalisation, hein, sur cette activité de puzzle. Elle va notamment lui faire repérer les caractéristiques du cheval, les oreilles pointues, pour l'aider à retrouver sur le plateau la forme des oreilles. Elle va verbaliser aussi l'action de l'enfant. Elle va lui faire des précisions spatiales, puisqu'à un moment, elle lui dit de placer le cheval, et elle lui dit de le mettre droit, et en fait, l'enfant lève la pièce, et donc elle lui dit non, pas debout, à plat. Et puis, elle va encourager, féliciter l'enfant quand il va réussir à trouver l'emplacement de la ferme. Il fait une erreur et puis ensuite il réussit. Et puis ensuite, elle va expliquer pourquoi il a réussi en reprenant la forme de l'arbre, de la ferme, en adéquation avec celle du plateau. Qui parle? Est-ce que c'est une enseignante, une AVS, une ATSEM, dans ce type d'échange que vous pouvez reconnaître dans beaucoup de classes. C'est la question que je veux poser ce matin, c'est-à-dire par rapport à ce type d'interaction, quel est le rôle de chacun des acteurs de la classe, et notamment, puisque c'est la problématique du jour, entre les ATSEM et les enseignants, et s'il y a des différences à faire entre les professionnels, du point de vue du langage, sur quels critères on va s'appuyer. Hein, ça va être l'objectif de mon intervention. Alors avant ça, je vais refaire un petit passage par quelques incontournables de façon à mieux étayer mon propos, c'est-à-dire de répondre à cette question. D'accord? Selon quels critères on va déterminer que l'enseignant aura un objectif et une modalité spécifique dans les échanges pour l'apprentissage du langage par rapport aux ATSEM. Et du coup, ça implique de revenir sur quelques éléments fondamentaux, notamment celui de se reposer la question de savoir ce qu'est parler. Alors, on va distinguer la question de communiquer, de parler, c'est-à-dire qu'à 6 ans, tous les enfants, sauf cas pathologiques avérés, médicalement attestés, savent communiquer. C'est-à-dire qu'ils utilisent la gestuelle, les mimiques. Ils vont s'appuyer sur la situation qui les entoure pour pouvoir se faire comprendre et pour pouvoir produire des énoncés qui seront souvent implicites, puisque justement la situation va suppléer le besoin d'être explicite, et qui seront en partie incomplets, pas toujours, mais qui seront en partie incomplets parce que effectivement on n'a pas besoin de tout dire dans ces situations de communication. Pour autant, est-ce qu'ils savent parler ? Alors là, on vient à la notion de compétence, de maîtrise de la langue. Est-ce qu'ils savent parler ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent utiliser le seul moyen du langage verbal pour se faire comprendre, dans un premier temps, et pour produire, exprimer un enchaînement de pensées ? Sous-entendu que le fonctionnement langagier est un fonctionnement cognitif, bien évidemment, mais je ne reviens pas sur cette question-là. Donc ça veut dire qu'ils doivent être en capacité de produire un discours qui va être explicite et structuré, pas tout le temps, bien évidemment, puisque dans certaines situations de communication en conversation ordinaire, on n'a pas besoin de tout expliciter, mais il va y avoir des situations, et notamment des situations d'apprentissage, où il va avoir besoin d'un degré d'explicite et de construction, d'organisation, qui passe par le vocabulaire, le lexique et la syntaxe, ou la grammaire, comme vous voulez. Et donc... cette capacité, cette compétence à produire un discours explicite va se traduire dans différents types de discours. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un certain degré de construction, de structuration et d'explicite pour raconter, pour expliquer, pour justifier, pour décrire, etc. C'est toujours ancré dans un type de discours particulier. Cela étant dit, comment l'enfant va apprendre à parler, c'est-à-dire comment il va accéder à cette fameuse maîtrise de la langue, des choses que vous savez, mais qui ne sont pas sans implication, qui est que apprendre n'est pas répéter, ce n'est pas une imprégnation. Et donc, si on pouvait apprendre, et si les enfants apprenaient simplement en répétant, on saurait et on ne serait pas là pour en discuter. Ce serait déjà réglé comme apprentissage. Le fait est que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque ça implique des fonctionnements cognitifs assez complexes, et que ça va être dépendant du langage qui va être proposé par l'adulte. Je reste sur des enfants tout venant, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème psychologique ou autre qui entrave cet apprentissage et qui serait connu sur le plan paramédical ou médical. Donc ça va dépendre de la quantité et de la qualité du langage qui est adressé à l'enfant par l'adulte, de façon à ce que ce que produit l'adulte puisse être un appui à ce que l'enfant va pouvoir puiser dans ce qu'il entend pour s'approprier pour son propre langage, son propre fonctionnement, les éléments dont il a besoin pour comprendre et surtout produire, parler. Donc cette appropriation, elle se fait, que ce soit le français langue première, qu'il soit français langue première ou langue seconde, je ne vais pas développer plus, mais quelle que soit la première langue de l'enfant, cette appropriation, cette mise en fonctionnement, on dira de schème sémantico-syntaxique créateur cognitif, cette appropriation-là, en fait, quelle que soit la langue première de l'enfant, il est dans le cadre scolaire où c'est le français qui est parlé, et donc il va s'appuyer sur les interlocuteurs qui parlent français pour pouvoir organiser sa deuxième langue simultanément à sa première, ou bien, s'il n'en a qu'une qui est le français, avec le français uniquement. Donc les adultes jouent un rôle bien évidemment essentiel, et je dirais tous les adultes, hein, tous les éducateurs au sens large, tous les acteurs autour de l'enfant qui se préoccupent de l'éducation de cet enfant, de ses enfants, les parents bien sûr qui sont les premiers éducateurs, et puis l'école maternelle qui va être un rouage essentiel. Alors un rouage essentiel, si on repense à ce que je viens de dire sur cette question du français langue première ou langue seconde, un rouage essentiel d'autant plus si la langue parlée dans la famille n'est pas la langue n'est pas le français, mais va être une autre première langue qu'il va falloir bien sûr stimuler également dans le cadre familial, et le français sera appris dans un cadre scolaire. On peut presque dire que ce sera un français langue de scolarisation, ce qui ne change rien à la problématique et à la posture, bien évidemment, de l'enseignant. Donc l'école maternelle, elle va être un rouage essentiel. Elle va être un rouage essentiel aussi, on le sait, pour les enfants dont la stimulation, même dans des familles monolingues français, qui ont des stimulations qui sont plus faibles que dans d'autres environnements. Il y a des corrélations, elles valent ce qu'elles valent. Il faut toujours prendre avec précaution ces corrélations. Enfin, il y a des corrélations avec le niveau, le milieu socio-culturel, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, non, c'est pas bien évidemment. En tout cas, il y a des corrélations. Bref, vous connaissez un petit peu tout ce travail issu des sciences de l'éducation ou des sciences du langage sur cette question. Donc, l'école maternelle va jouer un rôle essentiel. Alors, on peut se reposer la question, du coup, de quel langage l'enseignant adresse aux enfants de la classe au regard de ce que je viens de dire. Donc là, je m'appuie sur toutes les observations qu'on fait maintenant depuis un certain nombre d'années, depuis de longues années, et qui feront écho à vos propres observations, j'imagine. La première, c'est qu'on observe bien évidemment dans les classes du non-verbal et de l'implicite. On n'est pas toujours explicite, hein, on n'est pas toujours même du verbal, on est aussi dans du non-verbal, dans de la gestuelle, de la mimique. Et on a tout un tas de situations où effectivement l'adulte va faire à la place de, d'accord, sans verbaliser, mettre le manteau pour aller dans la cour. Il arrive très fréquemment qu'on met les fermetures des manteaux et on envoie les enfants dans la cour sans avoir adressé un mot à l'enfant sur comment on met le manteau, comment on va apprendre à fermer sa fermeture éclair. D'accord, il y a des impératifs, des contraintes de temps, etc. Donc on peut faire à la place de l'enfant. On peut demander à l'enfant de faire, mais sans lui expliquer comment faire. Si je reprends l'exemple du manteau, c'est ferme ton manteau, qui est donc une injonction à faire quelque chose sans pour autant que l'enfant sache, ou fêter la sait, sans pour autant que l'enfant sache exactement comment faire, puisqu'on ne lui a jamais forcément explicité avec des mots. Et on a énormément de situations où les productions sont très dépendantes de la situation. Alors on ne s'en rend pas toujours compte. L'exemple qui est juste en dessous, c'est en petite section, en regroupement collectif le matin. Et les enfants, donc c'est vraiment au moment du rituel qui est présent, qui est absent. Et c'est un système de figurines. Mais sans en dire plus, si vous lisez cet extrait, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser la situation. J'ai fait exprès, bien sûr, de ne pas mettre la vidéo. Où l'enseignante dit, regarde ce qu'il fait. Lilou, Bérénice, Rami, il y a 3 enfants absents. Un des élèves manipule les figurines sur le fil. Alors on peut faire comme ça aussi, c'est un peu plus difficile, c'est une bonne idée. L'élève dit, on peut faire comme ça aussi, on peut faire comme ça aussi, on a plein de façons. Alors je vais les accrocher, Rami, Lilou et Bérénice. Hop, Bérénice, elle s'envole. Si vous n'avez pas la vidéo, il est évident qu'il y a tout un implicite, la situation supplée la compréhension, et encore. C'est même pas dit, par contre la vidéo est intéressante de ce point de vue-là, parce que justement on voit ce que font les autres enfants en dehors de l'enfant qui manipule. Et il y a une bonne partie de la classe qui n'est pas là, qui est ailleurs, soyons clairs, d'accord ? Donc qui n'est même pas dans la compréhension de ce qui se passe. Probablement que l'élève, là, lui, comprend ce qui se passe et il y a une connivence avec l'enseignant et tous les deux savent ce qui est en train de se passer. Pour autant, pour les autres, il n'y a pas de mots, il y a beaucoup de déictiques, hein, les « ça », les « là », qui renvoient à la situation mais qui ne sont pas du tout explicites, qui n'explicitent pas le monde. Qui est donné à voir aux autres élèves. Et on est en petite section, d'accord ? Donc avec un besoin d'autant plus important d'avoir des dénominations précises sur ce qui se passe autour d'eux. Mais c'est très fréquent, hein, et on ne s'en rend pas toujours compte. L'enseignante qui s'était filmée, et une fois qu'on a fait la transcription, n'avait pas imaginé à quel point elle aurait pu être implicite dans cette situation. Autre situation qu'on peut observer chez l'enseignant, c'est qu'on a des situations d'explicite. Heureusement. On en a même souvent, notamment dans les situations d'apprentissage. Et ces situations d'explicite aident les enfants, du point de vue de leur apprentissage, à comprendre le monde qui les entoure, puisqu'on dénomme, je ne refais pas une parenthèse sur la conceptualisation du monde chez l'enfant, hein, la formation vous retrouvez ça chez Piaget, Vygotsky, etc. Sans reprendre tous ces éléments-là théorisés en psychologie, l'explicite, le fait de pouvoir donner les éléments précis par le langage, permet une meilleure compréhension et organisation du monde par les enfants. Ce qu'on peut appeler encore dans le jargon didactique, en pédagogie, la clarification cognitive, peu importe les termes, c'est l'idée que expliciter les gestes et les actions permet, à travers le langage, cette mise en mots permet l'organisation des concepts et donc du fonctionnement de pensée. Et donc, ça va, là, on passe de la communication à du discours qui est plus structuré. Donc, quelques exemples vraiment pris en vrac parmi toute une série d'enregistrements qu'on a pu faire, que les enseignants ont pu faire, notamment ces trois dernières années en formation REP+ sur Lille. Donc, j'ai repris... pour les personnes de Lille qui sont là et qui connaissent un petit peu ce travail-là, j'ai repris les exemples essentiellement qui sont tirés des enregistrements des enseignants. Donc, on a par exemple, on peut les mettre tous ensemble parce qu'ils ont la même forme. Et Rémi, lui, il a mis toutes ces formes ensemble parce qu'elles étaient de la même couleur. Voilà. Alors, je vais vous donner à chacun un plateau et c'est vous qui allez ranger les pièces du jeu. On peut imaginer la situation, c'est beaucoup plus explicite. Il y a probablement encore un petit peu d'implicite, mais enfin, on a quand même l'explicitation de ce que fait l'un des enfants. On voit à peu près ce que fait l'enfant, même si on n'a pas si on ne visualise pas si c'est des cubes ou quel type de forme c'est. Et puis, autre exemple, et oui, on a dit qu'il fallait bien faire attention à bien poser l'objet qu'on a ramené dans la maison, parce que s'il roule, on est obligé d'aller le rechercher. Et effectivement, ça fait perdre du temps. Là, on est dans un parcours, l'explication suite à un parcours, on va dire, de motricité. C'est un petit peu différent. Mais où là, effectivement, on a toute une explicitation hein, qui passe à travers des structurations du type « parce que », donc des justifications, hein, dans un cas comme dans l'autre. Et puis, un autre exemple, il fallait prendre les briques une par une, et c'est comme ça, je prends une seule brique, après je la pose sur les autres briques, je la pose bien, il faut que les picots entrent dans les trous, hop, j'emboîte, d'accord, et comme ça ma tour, elle monte. Donc il y a encore pas mal d'implicite avec c'est là et c'est ça, mais on est déjà à un degré d'explicitation supérieur à ce qu'on avait tout à l'heure, dans tous les cas. Ensuite, dans toutes ces situations d'explicite et d'implicite, on a des modalités d'échange qui peuvent être assez différentes. Donc l'enseignant peut procéder, vous l'avez vu dans les exemples même précédemment, à des questions. Alors des questions pour déclencher de la parole. Hein, je pense notamment aux enfants qui ne parlent pas ou très peu. Donc les questions vont souvent être des moyens de déclencher cette parole. Les questions vont être des moyens aussi de s'assurer de la compréhension de la situation, de ce qui s'est dit, puis aussi pour vérifier une notion. Alors, j'ai pris des questions très communes, de quelle couleur est le ballon, on attend la réponse de la couleur pour s'assurer que l'enfant connaisse effectivement la couleur du ballon. On a des questions aussi plus ouvertes pour ouvrir un discours, en fait, hein, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle les questions ouvertes, donc qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, qu'est-ce que tu vois, etc. Et puis on a des phrases suspensives aussi qui permettent de voir si l'enfant peut poursuivre ce que dit l'adulte. Bon, j'avais pris cet exemple parce qu'en fait, l'adulte dit « Julie, c'est ta copine » et « Marie, c'est ta cou » et en fait, l'enfant a répondu « Pine ». Voilà. Donc il était mignon. Donc, en termes de verbalisation, c'était intéressant. On en a beaucoup dans les phrases suspensives. Les enfants essayent de deviner ce que l'adulte veut dire. Et alors, on a des choses assez drôles parce qu'elles sont souvent pas toujours adéquates à ce qu'on attendrait. Alors, l'écueil qu'on repère sur ces modalités autour des questions, il y en a beaucoup dans les classes. Les enseignants procèdent à beaucoup de questionnements. Ce questionnement peut être très inhibiteur. Si vous reprenez le travail de Vallon sur l'interrogation chez l'enfant, il met bien en évidence en psychologie comment l'interrogation trop systématique peut être source d'inhibition. Donc il y a toute une réflexion quand même en psychologie sur cette question de la question. L'écueil, surtout du point de vue du langage, ce qu'on repère, c'est que les questions génèrent le plus souvent des phrases incomplètes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison à une question du type « il est quelle couleur le ballon ?» de répondre « le ballon est de couleur rouge ». Il n'y a aucune raison. Dans la conversation, dans l'échange entre les interlocuteurs, quels qu'ils soient, on n'a aucune raison de répondre par des phrases complètes, du type « il est où ?» dans la maison. Il n'y a aucune raison de répondre autre chose. Et ça fonctionne très bien dans la communication, donc il n'y a aucune raison d'exiger une construction complète. L'objectif étant quand même que les enfants ne soient pas uniquement dans la complétion ou dans la réponse à des questions. Produire du langage, c'est aller au-delà que simplement répondre à des questions ou compléter des énoncés des autres. Sinon, j'aurais beaucoup de mal à parler aujourd'hui si je ne savais faire que ça. Donc, les questions qui sont très fréquentes, les phrases suspensives, les corrections explicites, on en a des très jolies. Alors je mets toujours cet exemple parce que je l'adore, alors désolé pour ceux qui le connaissent déjà, mais il est tellement révélateur de ce qu'attendent les enseignants et de ce qu'attendent, enfin, de ce que cherchent à comprendre des attentes de l'enseignant par les enfants. Donc là, l'adulte dit « Édouard, couche nounours, répète ». Édouard, il couche nounours. Édouard, couche nounours. Édouard, il couche nounours. Non, pas il couche. Édouard, couche nounours. Édouard, couche nounours. Voilà. Édouard, il baille. Alors, il est bien parce que dans cet exemple, il y a tout, en fait. Tous les éléments qui montrent que l'attente de l'enseignant n'est pas à la portée de l'enfant. Pourquoi ? Parce que l'attente de l'enseignant, c'est la norme de l'écrit. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle veut, elle veut pas cette reprise du pronom clitique, là, ce « il », elle n'en veut pas, pour une raison qui est hors de portée de l'enfant, puisque l'enfant, ici, est en moyenne section, il n'est pas du tout, il ne sait pas du tout à quoi réfère cette norme de l'écrit, et donc, il ne peut pas accéder. Alors, il comprend quand même que l'enseignante cherche à ce qu'il ne dise pas le « il ». Hein, visiblement, il a saisi. Hein, au bout d'un moment, il comprend que c'est ça qu'elle veut. Mais pour autant, le naturel revient au galop et en réalité, cette construction avec le premier pronom clitique, cette redondance du pronom clitique, elle est très fréquente en conversation ordinaire. Nous en disons énormément. Les enfants en entendent énormément. C'est aucun problème. Ça ne pose aucun problème du point de vue de l'organisation du discours. Hein, ça ne pose pas du tout de problème. Ce n'est pas une entrave à l'apprentissage, comme on a pu le dire, enfin comme Suzanne Borel-Mozzoni a pu le dire, que c'était un signe probablement de pathologie. Donc là, on a dépassé hein, tout ça, bien sûr. Et donc, mais l'attente de l'enseignant ici, par la correction, hein, je te corrige, tu dois répéter comme moi je veux. On sait que bah, là, c'est flagrant, ça n'aide pas l'enfant à avancer dans son apprentissage, puisque de toute façon, c'est un peu comme si vous disiez, quand les enfants disent, on ne dit pas j'ai prendu, on dit j'ai pris, pour être sûr que deux secondes après, le gamin il dit j'ai peindu, d'accord ? Et parce qu'il est en train de faire des hypothèses sur ce type de fonctionnement, et que dans l'immédiat, la correction ne va pas être bénéfique pour son apprentissage. Sous-entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, apprendre ce n'est pas répéter, ce n'est pas parce qu'on répète que l'on a appris. La répétition peut être une stratégie d'apprentissage, elle en est loin d'être la finalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Autre modalité d'échange, ce sont les répétitions identiques. Donc si l'enfant dit « elle a retrouvé le chapeau de la poupée », l'adulte dit « Lily a retrouvé le chapeau de la poupée ». Ça confirme ce que dit l'enfant, il y a juste un changement entre du pronom, on passe au nom. Et ce type de modalité, si elles peuvent être sur les reprises identiques, ça peut être intéressant et pertinent pour valider ce que dit l'enfant. Pour autant, ça n'aide pas l'enfant, c'est un des écueils, ça n'aide pas l'enfant produire du langage de façon autonome. C'est-à-dire à ce que ce ne soit pas des reproductions de modèles entendus, mais qu'il soit bien une production qui lui soit propre. C'est-à-dire qu'il y a eu appropriation sur le plan cognitif. Si aujourd'hui, enfin, ce que je produis aujourd'hui est complètement intégré à mon fonctionnement cognitif et langagier. Ce n'est pas la répétition de ce que j'ai pu entendre, ou ce n'est même pas la lecture de quelque chose que j'ai écrit. C'est un fonctionnement autonome sur le plan cognitif. Donc l'objectif ici, enfin l'objectif, c'était pas un objectif, pardon, la modalité d'échange, en fait, ne permet pas à l'enfant de faire des hypothèses sur le fonctionnement de la langue, de véritablement mettre en œuvre son fonctionnement du langage. Mais il y a d'autres modalités d'échange qu'on repère entre enseignants et élèves qui comportent des modalités d'apprentissage réellement, c'est-à-dire où on a les enfants qui peuvent s'appuyer, ou ce que propose l'adulte peut être des supports à une réflexion non consciente, bien sûr, chez l'enfant, c'est-à-dire à une possibilité chez l'enfant de récupérer des informations, je veux dire des structures, des mots qui pourront lui être utiles pour son propre langage. Et donc on observe dans les enregistrements les enseignants qui peuvent faire des reformulations, reprises et reformulations, on va parler plutôt de reformulations, qui vont être des propositions de phrases complètes, explicites et structurées. Alors, on en observe un certain nombre. Donc, quand on parle de reformulation, c'est-à-dire que ce n'est pas une reprise identique, mais c'est bien proposer quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau dans l'énoncé qu'on propose à l'enfant par rapport à ce que lui a dit. Hein, c'est un apport nouveau et qui est un niveau légèrement au-dessus de ce que l'enfant a déjà proposé. Hein, c'est cette fameuse zone proximale de développement. Donc, à un niveau supérieur dans différents types de discours, là aussi. Donc, un petit exemple d'une enseignante. Donc, l'enfant dit « ils sontaient dans le chaud ». Hein, hypothèse sur le fonctionnement du verbe du troisième groupe. Ils sont sontaient dans le chaud. Les escargots ont été du côté, l'enfant poursuit chaud. Donc, qu'est-ce qu'on a pu en conclure? Ils aiment bien le chaud. Reformulation qui reprend l'intégralité des questions et des phrases suspensives qu'on a vu tout à l'heure qui sont en soi. On voit bien là, l'enfant produit. Ils sont sontaient dans le chaud. Chaud, ils aiment bien le chaud. Et donc là, elle va reprendre tout ça, mais en montant de niveau. D'accord, en faisant une proposition différente. Ils préfèrent la chaleur, les escargots préfèrent la chaleur parce qu'ils ont été du côté du radiateur, là où il fait chaud. C'est même peut-être assez haut, mais on ne sait pas si on peut vraiment évaluer par rapport à l'enfant. On n'a pas assez de données ici pour savoir si elle était dans cette zone de développement ou pas. Hein. Mais en tout cas, elle fait une proposition qui est au-dessus de ce que propose l'enfant et sur laquelle l'enfant entend, a une expérience, d'accord ? Il a cette expérience langagière sur laquelle il pourra s'appuyer, peut-être plus tard, pas tout de suite. Hein, d'accord ? L'apprentissage ne va pas être linéaire et ce n'est pas une ligne droite. Hein. Ça monte, mais c'est toujours en dents de scie. Et donc, il est potentiellement, l'enfant pourra s'appuyer dessus. En tout cas, il a cette expérience langagière. Il entend des formulations sur lesquelles il pourrait s'appuyer éventuellement. Alors, pour essayer de commencer à répondre à ma question sur l'enseignant dans cette configuration de la posture langagière, de mon point de vue, un professionnel tel que l'enseignant doit passer des productions qui seraient intuitives, d'accord, à de l'expertise. Alors, je vais m'expliquer. Pour pouvoir être sûr de pouvoir proposer, pour pouvoir être sûr de proposer aux enfants des modalités qui soient efficaces, et notamment celles qui se situent dans ces fameuses zones proximales de développement, il faut qu'on soit conscient du type de production que l'on adresse à l'enfant. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'on sache exactement, qu'on puisse repérer exactement ce qui est déjà maîtrisé par l'élève, c'est-à-dire qu'on puisse repérer dans son discours quel type de structuration il a déjà acquis, ce qu'il produit spontanément, et celle que potentiellement il va devoir encore acquérir. Donc il va falloir évaluer cette zone potentielle, donc savoir regarder dans les énoncés des élèves la forme linguistique des énoncés qu'il produit, et non pas de façon intuitive, mais parfaitement ciblée. Pourquoi je dis ça ? Parce que notre intuition nous trompe. il y a un fossé énorme entre ce qu'on pense dire et ce que l'on dit réellement, entre ce qu'on pense que les autres disent et ce que l'on dit réellement. Notre oreille filtre, d'accord ? Et donc, comme je disais tout à l'heure pour l'enseignante qui, une fois qu'elle s'est vue et qu'elle a vu la transcription, est vraiment a été très surprise de voir à quel point elle était dans l'implicite. Ça arrive tout le temps pour tous les enseignants en formation qu'on a pu, avec qui on a pu travailler. C'est toujours la même, le même constat, c'est que l'enregistrement montre, donne à voir que ce qu'on pense dire et ce qu'on dit, c'est pas la même chose. Et souvent, il y a même un fossé entre ces deux. Je vais vous donner un exemple qui est lié à la norme de l'écrit, parce qu'on a été très formaté par cette norme de l'écrit, en France en tout cas, et à l'école. Nous pensons tous, enfin non pas moi, pour le coup je m'exclus, beaucoup de personnes, la majorité probablement, pensent que on va, genre je veux dire vous, vous me direz si je me trompe, vous pensez que vous ne dites jamais aller au coiffeur, vous pensez que vous ne dites jamais la fille que je te parle. Vous pensez. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison. En tout cas, dans tous les enregistrements de français parlé, cette alternance entre que et don est très fréquente. Et l'alternance entre o et chez également. Et donc, on l'entend chez les autres. On va même avoir un jugement sur ce que les autres disent, sans s'entendre soi-même. Et les enregistrements montrent, enregistrez-vous à un repas de famille. Alors, en début, au milieu, à la fin, comme ça vous faites une comparaison. Mais c'est sûr que dans la classe, les enseignants se surveillent beaucoup plus. Bien évidemment qu'il y a des situations. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui fait que je surveille beaucoup plus le type de discours que je produis, bien évidemment. Mais dès que l'on est en conversation ordinaire, je dirais, ou dans d'autres contextes, qui est moins professionnel peut-être, ou moins formel, alors on utilise ces variantes. On a l'utilisation de ces doubles variantes, « o »,« chez », »,« que », »,« don ». Je sais, il y a toujours plein de gens qui font ça. Donc enregistrez-vous un repas de famille et vous verrez quelles sont vos variantes en conversation ordinaire. Et ce n'est pas un problème. C'est-à-dire le fait de dire « aller au coiffeur », moi je l'assume parfaitement, je le dis tout le temps. D'accord ? Aller au coiffeur, aller chez le coiffeur, l'un pour l'autre, ça ne change rien pour moi. D'autant qu'il y a une justification linguistique. D'accord ? Je ne ferai pas la démonstration, mais il est beaucoup plus logique de dire aller au coiffeur que d'aller chez le coiffeur, parce qu'on est sur des verbes de mouvement. Peu importe la justification linguistique, ce qui est intéressant, c'est que le chez a été imposé par l'Académie française à un certain moment, et que cette formulation est donc posée de façon ad hoc par une entité qui décide du bon usage ou du mauvais usage. D'accord ? Donc, ce formatage-là, on l'a, et du coup, quand on s'enregistre, on voit tous ces trucs-là de la norme qui ne correspondent pas, les reprises du pronom clitique, tout ça, qui nous pose a priori un problème. Faut pas se flageller, c'est comme ça. C'est le français parlé, ça ne pose aucun problème. Les enfants l'entendent tout le temps, ça ne les empêche pas d'apprendre à parler. C'est-à-dire que ce qu'ils regardent, eux, ce n'est pas la norme, mais c'est bien le fonctionnement de la langue. Et donc, ce fonctionnement de la langue, il faut en avoir conscience pour pouvoir s'adapter à chaque zone de développement de chacun des enfants. Donc, on met une proportion qui ne vaut rien d'un point de vue scientifique, mais qui aide à repérer qu'on part de 80% de connus chez l'enfant pour 20% d'inconnus. Et si on veut observer que ce que l'on dit permet aux enfants de réinvestir, de s'approprier des formes lexicales et syntaxiques, alors il faut avoir véritablement une conscience du type de production que l'on produit et que les enfants produisent. Et c'est ça l'expertise du professionnel enseignant. Ça devrait être son expertise. Ça ne veut pas dire que ça l'est toujours. Parce qu'on va voir, il y a quand même une question de formation derrière. Mais ça devrait être l'expertise de l'enseignant. Si les programmes, c'est bien la maîtrise de la langue, alors amener les enfants à la maîtrise de la langue, c'est faire en fait ce que font les familles, catégorie moyenne supérieure, où les enfants sont stimulés, voire archi-stimulés, où les parents vont interagir en reprenant, en reformulant, en étant systématiquement dans ces zones, très fréquemment dans ces zones de développement, en montant le niveau aussi, au fur et à mesure, en fonction de ce qu'il cible, de ce que l'enfant est capable de réinvestir, en proposant même à l'enfant parfois de reprendre, de lui tester le fonctionnement sur la langue, de façon complètement intuitive, non conscientisée. Et donc, l'objectif de l'enseignant, ce sera non pas que ce soit intuitif, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui font des reprises et des reformulations qui sont dans les zones de développement, mais ils n'en ont même pas conscience. Donc l'expertise pour un professionnel du cycle 1, ce serait d'avoir cette conscientisation qui, de mon point de vue, est absolument nécessaire. Elle va pouvoir permettre de distinguer ce qui est implicite de ce qui ne l'est pas, de ce qui est complet, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est de l'ordre des questions, des corrections et des reprises et des reformulations, et ensuite, à l'intérieur, des énoncés qui vont être pertinents pour l'adaptation, ce qu'on appelle interaction éducative adaptée. Donc je pense que vous commencez à voir ce qu'il en est. Je vous mets juste un tout petit exemple de ce que ça donne, cette possibilité chez l'enseignant de monter. Donc j'ai mis les exemples qui fonctionnent bien. Ça ne veut pas dire que dans tous les champs, ça marche bien. On n'est pas des robots. Mais qu'à certains moments, il y a ces adaptations. Et là, on est sur un fonctionnement conscientisé, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de formation et de conscientisation, on va dire, de l'enseignante autour de ces questions-là. Donc, je vous mets l'extrait.
En fait, Grégoire, il a les cheveux sales. Grégoire, il ne veut pas aller dans son bain.
Grégoire a les cheveux sales et il ne veut pas prendre son bain.
Grégoire ne veut pas se déshabiller.
Grégoire ne veut pas se déshabiller pour aller dans son bain.
Bah.
Que lui dit Tata?
Il veut. Tu vois.
Qu'est-ce qu'elle lui dit quand elle lui montre le regard de ses cheveux?
Tu vas laisser tes cheveux sales.
Bien, elle lui dit qu'il a les cheveux sales. Tu as encore quelque chose à dire?
Il a les cheveux sales.
Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là, Grégoire?
Il veut pas aller dans son bain.
Il pleure parce qu'il ne veut pas prendre son bain. Il tourne.
Grégoire est tout nu. Grégoire, il s'est déshabillé tout nu.
Ben oui, Grégoire est tout nu parce que Tata l'a déshabillé. Pourquoi est-ce que Tata l'a déshabillé?
Parce que. Il a pris son canard.
Oui, il a pris son canard pour aller dans le bain. Ah. Et pourquoi est-ce que Tata l'a déshabillé?
Et parce que la Tata s'est fâchée.
La Tata.
Alors, vous voyez que l'enseignante, systématiquement, va reprendre ce que dit l'enfant, mais en rajoutant un pour plus verbe à l'infinitif, un parce que. Et elle monte des constructions simples de l'enfant. Elle l'incite en réponse à pourquoi, à produire parce que, parce qu'elle l'a produit plein de fois, elle aimerait bien qu'il le réinvestisse. C'est une réponse à pourquoi, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise le parce que. Mais, si vous regardez, je mets vite fait le son, de ces pour plus verbe à l'infinitif que l'adulte a proposé plusieurs fois, un petit peu plus loin dans le même enregistrement.
En fait, Grégoire est sorti de bas.
Grégoire est sorti de la baignoire.
Pour se fuyer.
Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a un réinvestissement. C'est encore timide, hein. C'est pas des phrases complètes, il faut vérifier si c'est dans plein d'autres contextes. C'est un enfant de grande section, il y a encore du chemin. Mais il y a du chemin, après effectivement on peut s'inquiéter pour l'entrée au CP, mais c'est le lot de beaucoup d'enfants. En tout cas, il est dans une dynamique d'apprentissage puisqu'il s'appuie sur ce que dit l'adulte pour réintégrer, pour réinvestir des éléments qu'il n'avait a priori pas produits spontanément. Donc on pouvait faire l'hypothèse qu'il ne les maîtrisait pas encore. Et de fait, puisqu'on a des corpus plus longs, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Regardez le discours indirect, on a un truc qu'on ne comprend pas. Visiblement, il dit des trucs parce qu'il sait qu'il doit mettre quelque chose là, dans « tu vas tes cheveux sales ». Et là, reformulation par du discours indirect, elle lui dit qu'il a les cheveux sales, qui va être encore une expérience langagière sur laquelle il pourra s'appuyer plus tard. Mais il lui faudra, je dirais, des milliers et des milliers d'interactions de ce type pour pouvoir effectivement les réinvestir. Alors, c'est toute cette démarche-là qu'on appelle démarche d'entraînement en langage. Je vais passer assez vite. Ce sont, donc comme je disais tout à l'heure, on focalise sur la forme linguistique des énoncés. C'est une écoute particulière qui n'est pas naturelle, qui est extrêmement fatigante, qu'il ne faut pas faire, bien sûr, 24 heures sur 24, ou en tout cas pendant toute sa journée de classe. Mais il faut pouvoir avoir cette oreille détournée, je dirais, et savoir identifier les constructions. Alors là, savoir identifier les constructions, ça suppose aussi que les enseignants soient au clair sur les fonctionnements grammaticaux, d'accord, qui repèrent bien qu'effectivement on a des constructions de type subordonné avec des conjonctions, des relatifs, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même type de hiérarchisation non plus. Donc il faut que aussi les enseignants, la question de la formation est aussi des informations, des notions de grammaticales de ce point de vue-là sur le fonctionnement de la langue. Et la seule façon qu'on ait à l'heure actuelle, ben je ne vois pas d'ailleurs, je dis à l'heure actuelle, mais ben bon, on peut toujours imaginer qu'il y en aura d'autres plus tard, mais pour l'instant je ne vois pas du tout. La seule façon d'accéder à cette conscientisation, c'est des pratiques réflexives, bien sûr, et elles ne peuvent passer que par l'enregistrement et la transcription. Alors au moins l'enregistrement, parce que la transcription c'est extrêmement chronophage, donc la transcription peut être travaillée en formation, mais l'enregistrement c'est le seul outil qu'on a justement pour observer cette distance entre ce qu'on pense dire et ce qu'on dit réellement, et entendre les productions des enfants et les siennes pour mieux réajuster au fur et à mesure. C'est un outil indispensable, c'est un outil d'évaluation pour l'oral. Le seul outil qui existe, c'est l'enregistrement. L'avantage, c'est que technologiquement, maintenant, on peut enregistrer avec n'importe quoi. On a tous des moyens d'enregistrer. C'est en temps réel, ça ne prend pas de temps. La seule chose qui demande du temps, mais après, c'est un objectif propre à l'enseignant, un objectif pédagogique, qui est de prendre le temps de réécouter cet enregistrement. Vous voyez, ils ne sont pas très longs. Ça dure 2, 3, 4 minutes, ce n'est pas non plus très long. Et de cocher, effectivement, ce que dit l'enfant, ce que dit l'adulte, et si on est bien ajusté, si on n'est pas en deçà, ou trop au-delà de ce que produit l'enfant. Alors, les ATSEM, parce que c'est quand même... Alors, les ATSEM, la façon dont moi je perçois les choses, c'est, je veux dire, elle, je ne sais pas s'il y a des ATSEM hommes, j'en ai jamais vu. Alors, d'accord, moi, du coup, j'en ai jamais, j'ai jamais eu l'occasion... Donc les ATSEM peuvent être un relais et des compléments à cette expertise. Pour autant, je n'envisage pas que ces professionnels aient le même type d'expertise. Je pense que cette expertise sur cette adaptation des interactions, c'est le rôle de l'enseignant, c'est véritablement la compétence de l'enseignant. En revanche, pour tout ce qui est support à la communication, les ATSEM peuvent jouer un rôle énorme. En termes de gestion de la dimension sociale du langage, hein, prendre la parole, attendre son tour, etc., à travers des supports du type jeu de société ou autre, hein, ou quoi de neuf. Pour passer de l'implicite à l'explicite verbal, c'est-à-dire amener les enfants à être plus explicites, que ce soit dans les situations de vie quotidienne, hein, au repas, à l'habillage, aux toilettes, etc., elles peuvent jouer un rôle énorme de ce point de vue-là pour offrir justement aux enfants cette expérience langagière dont certains manquent cruellement dans leur environnement. Donc elles peuvent être des relais, puisque l'enseignant ne peut pas toujours parler à tous les enfants de façon en quantité suffisante tous les jours. Donc la TSEM, elle va être possiblement, elle peut être possiblement ce relais d'offrir l'expérience langagière. Ça peut être aussi dans le cadre d'activités d'apprentissage. Ça dépend comment, quel rôle la TSEM a évidemment dans la classe, quelle place lui donne l'enseignant.
Donc elle peut proposer ce discours structurant, elle peut même proposer des reprises et des reformulations, mais en termes de formation, ça reste des formations, on va dire des compétences plutôt, qu'on travaille en formation, des compétences qui sont des compétences plus génériques, on va dire, sur les modalités qui sont d'expérience langagière, qui sont utiles pour les enfants. Je vais vous montrer trois petits exemples d'ATSEM en situation. Alors, je vais faire comme ça tout de suite. Hein. Donc là, on est en situation.
Comme d'habitude, quand on fait des crêpes, ce que tu veux. Sauf que là, on ne sait pas les gens. Mais
c'est bien parce que c'est
pas
les
gens. Allez.
La caméra fait toujours ça.
On le trouve. On écarte doucement.
Donc, je ne sais pas si vous entendez tout bien, je n'ai pas fait la transcription, mais on voit bien qu'elle explique à la petite fille comment elle doit mettre ses pouces pour écarter, pour séparer le blanc du jaune, et elle verbalise toutes les actions qui sont en train de se faire. Et ça, ce sont des situations spontanées, on n'a rien demandé aux ATSEM particulièrement à ce moment-là. Une autre situation, en situation d'apprentissage d'activité patassée.
Tout le monde est d'accord? Alors, je vous donne des petits morceaux de pâte à sel. Et là, on va travailler la pâte à sel. On a déjà travaillé la pâte à sel. Là, on va travailler la pâte à sel. C'est notre point. Donc, on fait exactement la même chose que la pâte à modeler. Il faut... Oui, ça fait. Il faut la travailler avec la paume de la main. D'accord? Alors, je donne à chacun... Voilà, c'est bien.
Donc là, elle installe l'activité et elle verbalise tout ce qu'elle fait. Hein, à qui elle donne la pâte à sel, de quelle couleur elle est.
Tiens.
Faut pas la plaquer,
Aaron. Tu viens,
Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le gamin il dit ça colle, et elle dit oui ça colle, et tout de suite reprise derrière ça colle. Et on observe ces interactions comme ça ou qui sont complètement spontanées où l'enfant va reprendre ce que dit l'adulte pour là on est sur de la phonétique. Hein,
ça c'est bien.
Et vous allez voir comment ensuite elle explique le geste
tourne
aussi.
Comme ça. Alors, par contre, par rapport à la pâte à modeler, faut pas beaucoup appuyer.
C'est comme ça.
Non.
C'est comme ça.
Regarde, comment je fais. Comme je fais.
Et
on va comme ça. Non, là tu fais le bouddha. Moi, ce que je voudrais, regarde,
Aaron.
Tu tournes comme ça. Envoie les pommes pour le moment.
Ah oui, c'est comme ça. Regarde. Mets bien ta main à plat. Alors, à plat, rien à plat. Et attention, n'appuie pas trop fort.
Voilà, et vous avez, je vais aller assez vite, la même chose, là j'ai mis la transcription, même sur l'explication du geste graphique.
Regarde, pas bien ton crayon. Regarde, je te montre.
La boîte.
Ah oui, voilà. Elle est là-bas. Elle est là.
Que si, on a encore.
De plus, on a un Cassandra. Majeur, non. Que celle.
Voilà. On entend pas très bien, mais vous avez la transcription à côté où on voit comment elle explicite le geste et elle le fait en même temps et en même temps elle verbalise. Donc, Donc j'arrive bientôt à la conclusion. C'est-à-dire, si on veut identifier le rôle de chacun des professionnels ATSEM et enseignants, on a la possibilité de demander, en fait, d'organiser ces activités pour permettre, parce que vous avez compris que chaque enfant va être dans des zones de développement différentes, bien évidemment. Il n'y a pas un enfant qui sera dans la même zone de développement et que cette expertise nécessite obligatoirement une adaptation individuelle à chaque enfant. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément que dans des relations duelles. Là, on a vu, on est en groupe, les reprises et reformulations, elles sont individuelles, mais elles sont dans un petit groupe, d'accord ? Donc, ça ne veut pas dire une relation duelle, mais des séances individuelles. C'est-à-dire où on peut, même dans un petit groupe, l'enseignant peut avoir le temps de faire cette expertise et de relever là où en est l'enfant et ce vers où il doit pouvoir l'amener. Et donc, on teste, nous, le type de fonctionnement qu'on a adopté dans certains cas, c'est que tout ce qui était lié à la dimension communicative, sociale, mais aussi linguistique, d'explicitation, on a travaillé autour du jeu de société, parce que effectivement ça permet un certain nombre de choses, donc là je ne m'étends pas. Et puis, pendant ce temps-là, du coup, l'enseignant pouvait travailler avec 2-3 enfants en interaction duelle. Et là, avec le support de livres illustrés, je ne m'étends pas. Il y a tout un travail de recherche autour de ces deux questions-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle jouer pour parler, parler pour jouer, ou encore l'entraînement au langage, parler en racontant. Donc là, je ne m'étends pas, mais enfin, c'est des choses qu'on peut... Alors, pour ce qu'on a déjà expérimenté, c'est par exemple à Tourcoing, ce ne sont pas des ATSEM, ce sont des animateurs. Mais en termes de possibilités et de compétences dans ce dispositif, on peut très bien transposer les choses. Donc pour terminer, vous imaginez bien que tout ce que j'ai dit, si on veut cibler toutes ces questions-là, la formation va être un incontournable. Il faut penser non seulement la classe, évidemment, avec tous les partenaires, mais ça, c'est un peu, je dirais, enfoncer des portes ouvertes, avec les parents, les ATSEM, les enseignants, et peut-être d'autres aussi, et qui supposent des types de formations qui vont être un petit peu différents. On ne va pas faire une formation sur l'expertise langagière aux parents. S'il y a des personnes, des professionnels autorisés à faire de la co-intervention, ce sont les orthophonistes, par la guidance parentale, et c'est très ciblé, c'est pour de la remédiation. Pour tous les autres enfants, on ne va pas demander aux parents de suppléer le travail de l'enseignant ou d'autres acteurs. Donc on n'est pas dans la co-intervention, en tout cas c'est un point de vue que je défends fortement, mais on va être dans la co-éducation, donc... Je passe très vite parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est très important. Pour les ATSEM, on peut par contre avoir quelque chose qui aille au-delà de la co-éducation, justement, mais qu'on ait peut-être pas une conscientisation très forte, mais au moins qu'elles aient la possibilité en formation de prendre connaissance de ces modalités d'interaction qui sont les plus favorables. Et puis pour les enseignants, une formation initiale et continue qui soit basée sur cette expertise. Et ça se fait sur du long terme. C'est pas une animation pédagogique comme j'ai pu en faire qui vont changer les pratiques des enseignants. D'accord ? C'est de la formation réellement. Voilà. J'ai terminé.